Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business.
Stéphane Pedrazzi accueille les experts.
La suite des experts avec toujours nos trois invités en plateau. Agnès Michel, membre du comité éditorial de Terra Nova. Emmanuel Combe, professeur à la Skema Business School. Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, ingénierie de l'air comprimé. On va voir pourquoi la France a du mal à attirer les talents étrangers. Elle est toujours classée 19e dans l'index mondial publié par l'INSEAD. Portulane, c'est le Human Capital Leadership Institute. On est très 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 loin derrière la Suisse, Singapour, le Danemark et les États-Unis qui sont les quatre premiers. En plein débat sur l'immigration choisie, Laurent Vronsky, ça confirme que la France a du mal à attirer une immigration qualifiée. Pour quelles raisons ?
Alors là-dessus, je peux apporter le modeste poids de mon expérience, puisque comme je le précisais en début d'émission, moi j'ai fait toutes mes études aux États-Unis et donc j'ai vu ce qui s'est passé quand j'ai été diplômé. Donc on nous a offert à tous des ponts d'or dans des conditions extraordinaires.
Sauf manque de respect, c'était une autre époque.
Mais je pense que ça n'a pas changé. Vous allez aujourd'hui, moi je connais bien les États-Unis, vous allez dans les laboratoires de recherche, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'Américains. Les Américains, très tôt, ont compris qu'effectivement, il fallait essayer d'attirer les gens et on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc dans des conditions de vie extraordinaires, avec des salaires qui n'ont absolument rien à voir. Regardez le nombre de chercheurs, regardez le nombre d'ingénieurs qui sont partis à la Silicon Valley. Alors il y a des gens qui se gargarisent en disant c'est formidable, on a 25 000 ingénieurs français à la Silicon Valley. Moi je suis désolé, moi je trouve ça
c'est une fuite de cerveau.
Pour notre pays, je trouve ça triste.
Bon.
Et en plus, on a payé les études à des gens qui sont allés, si vous voulez, exercer leur art ailleurs. Bon, donc les Américains ont très bien compris la musique. Vous avez des pays qui pratiquent l'immigration sélective depuis très longtemps. Je veux dire, l'Amérique en est un bon exemple, l'Australie et autres. Donc, tant qu'on n'aura pas, si vous voulez, rendu les choses attractives, mais c'est le salaire. L'éducation, les conditions de vie, mettre en place des systèmes pour que quand des étrangers arrivent dans notre pays, ils ne se débrouillent pas tout seuls. Vous arrivez aux États-Unis, vous avez été invité par une boîte, on s'occupe de tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre vos valises et les poser...
Alors vous parlez de salaire, vous parlez de conditions d'accueil des travailleurs étrangers. Vous, chez Hervor, est-ce que vous seriez prêt à les payer beaucoup plus pour les attirer chez vous ? Il y a aussi une réalité économique. Les entreprises ne peuvent pas s'aligner sur les salaires américains.
Alors, croyez-moi, je connais bien la réalité économique. Et en plus, on exporte 90% de nos produits, donc on est confronté à une concurrence internationale. Donc c'est le globe, pas seulement l'Europe. Mais je pense que la question, elle se pose pas juste pour les étrangers, elle se pose pour toutes les personnes en général. Je veux dire qu'on a un réservoir de gens en France qui n'ont pas de job, et il y a peut-être des questions à se poser sur l'attractivité de certains métiers. Je veux dire que... avant de dire on va aller à l'autre bout de la planète pour chercher les types, excusez-moi, je vais être un peu provocateur, pour ramasser les poubelles, il faut peut-être se poser la question de pourquoi on ne trouve pas chez nous des gens qui vont les ramasser. Sauf que maintenant, on en trouve parce qu'on a complètement changé les choses. Et je pense qu'il y a plein de métiers, et je ne suis pas en train de faire une leçon de choses, qui doivent opérer leur révolution copernicienne pour que ça soit attractif. Si vous avez des conditions de salaire, qui veut travailler dans des conditions lamentables avec des conditions de salaire lamentables ? Il n'y a pas besoin d'être un fin sociologue. Donc si dans certains métiers vous rendez les choses attractives, vous allez trouver du personnel. D'après ce que j'ai compris, en France, il n'y a pas zéro chômeur.
On manque de couvreurs, de pharmaciens, de chaudronniers, de mécaniciens. Alors, à des degrés différents, tous ces métiers nécessitent quand même un savoir-faire, à minima une formation et des études longues, évidemment, pour les pharmaciens. Est-ce que l'immigration peut être la solution à notre pénurie de main-d'œuvre ?
J'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Ça a toujours fonctionné comme cela. Hein. Quand on regarde, en réalité, cette immigration qui, en France, est surtout une immigration qui va plutôt occuper des emplois assez peu qualifiés,
c'est
très
vrai.
Pénible. En réalité, elle est complémentaire des emplois qu'occupent les Français. Hein. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix et c'est plutôt une bonne chose, mais ça a toujours existé. Hein. En réalité, la thèse qui consiste à dire, sans vouloir citer de partis politiques, je crois que c'était 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés, statistiquement, économiquement, elle n'a pas de fondement logique. En réalité, il n'y a pas de substitution, il y a complémentarité. Je voudrais revenir un tout petit instant sur l'enquête de l'INSEAD, elle est assez intéressante,
oui.
Parce que le paradoxe, c'est qu'on est assez bien classé dans la production de talents talent, pour reprendre leur expression. Je sais pas très bien ce qu'on entend par talent, mais en tout cas production, on va dire, de cerveau. La qualité du système éducatif français, ouais. Il est reconnu comme étant très bon, notamment sur toutes les disciplines scientifiques.
Même si on a perdu quand même du terrain en mathématiques, même si dans le classement PISA, on n'a plus.
Je suis d'accord.
C'est pour ça que ça m'a presque étonné. On est neuvième,
mais on est considéré quand même comme des bons producteurs de talent. Et ce décalage entre cette capacité à produire et cette capacité à attirer, et vous avez donné en partie la réponse, hein, c'est-à-dire en réalité, on veut peu de personnes qualifiées veulent venir chez nous. Par contre, beaucoup de Français s'exportent à l'étranger. Alors, pourquoi peu de personnes veulent venir, à mon avis, c'est multifactoriel. Il n'y a pas une cause, il y a déjà des facteurs objectifs. Bah, la francophonie, enfin, c'est bête, mais c'est en France, on n'est pas les champions du monde de l'anglais. C'est pas tout à fait la même chose d'émigrer en France et d'émigrer, par exemple, en Hollande, où la seconde langue, en quelque sorte, est l'anglais. Il y a ce premier facteur qui peut jouer. Je constate aussi dans l'étude, très intéressant, que si vous laissez de côté les États-Unis, qui sont un pays vraiment à part, dans le classement de ceux qui attirent, c'est comme par hasard des tout petits pays géographiques. Donc j'ai envie de dire, il y a une corrélation entre la capacité à attirer et la taille. La Suisse, je crois qu'ensuite il y a Singapour et le Danemark. Donc c'est pas complètement non plus un hasard. Une fois qu'on a laissé ces facteurs objectifs, en effet, je suis d'accord avec vous, il y a la manière dont les conditions d'accueil. Et dans les conditions d'accueil, je vais mettre l'accent sur un point que je connais un petit peu, hein, dans l'attractivité, et notamment l'attractivité des chercheurs. Hein, vous l'avez dit, les rémunérations des chercheurs sont extrêmement faibles. Donc mettez-vous à la place d'un jeune chinois ou singapourien qui a fait un doctorat, venir en France. Certes, il aura un laboratoire d'accueil de très très grande qualité, parce qu'on est très bon en recherche, notamment scientifique, mais les rémunérations ne sont pas au niveau. Donc ça joue aussi. Mais attention à ne pas tout réduire à un aspect condition d'accueil, il y a aussi des facteurs structurels.
On n'a pas entendu Agnès Michel. Je vais vous poser une question toute simple pour connaître la position de Terra Nova. Est-ce qu'il faut régulariser les sans-papiers ? Beaucoup de chefs d'entreprise y sont favorables.
Alors, je ne vais pas parler pour Terra Nova parce que je ne crois pas qu'on ait sorti un papier spécifiquement là-dessus, mais de façon générale, oui. Oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont sur le territoire depuis longtemps, donc l'intégration n'est pas un sujet. L'intégration, elle est de fait. Donc effectivement, depuis les lois Pasqua de 93, il y a eu un durcissement sur ces conditions d'accès au papier et qui n'était pas vraiment dans le sens de l'humanité, ni de la rationalité, ni sociale, ni économique. Il y a le problème aussi avec des étudiants, c'est-à-dire que des gens qui font leurs études, c'est des périodes où on s'installe aussi dans la vie et il est extrêmement compliqué ensuite de passer à la situation de permis de travail. Donc il y a pas mal de choses à revoir sur le processus d'accès à des papiers pérennes et parce que de toutes les façons c'est un fait sociologique, les gens sont là. Après il faut aussi rappeler du bon sens historique, les migrations, les mouvements de population, c'est un fait anthropologique qui est lié à l'humanité, hein. Ça n'est ni nouveau ni récent. Combien d'entre nous a des grands-parents ou des parents ou des arrière-grands-parents qui sont partis parce qu'ils étaient pauvres dans des pays où il y avait un espoir d'aller mieux, de gagner mieux. On l'a tous dans notre... Ça fait partie des choses. Maintenant, il faut faire en sorte que ce soit un peu plus fluide, parce que je vous rappelle aussi un autre fait, pour le coup historique, plus on ferme les frontières, plus on est sur des périodes qui se tendent et qui finissent en général mal. Voilà pour le contexte. Économiquement, de toutes les façons, on a des populations qui sont là, qui sont prêtes à réaliser un certain nombre de métiers qui sont en tension.
Sont prêtes ou qui le font déjà. C'est un secret folichinel dans la restauration, dans le nettoyage. Voilà. On ne pourrait pas fonctionner sans eux.
Soyons rationnels et arrêtons de traiter, d'exclure une partie de la population qui nous aide beaucoup.
Laurent Vronsky.
Oui, moi je pense qu'il y a un élément qui est fondamental et là je m'appuie sur du concret puisque nous nous sommes lancés dans une aventure où en clair on ouvre des écoles un petit peu partout en France.
Espérance banlieue.
Voilà, Espérance banlieue. Donc, si les auditeurs veulent voir à quoi ressemblent nos écoles, je vous invite. On a un magnifique site, vous allez voir. Et là où on ouvre, en clair, c'est là où la République a cessé d'exister. Donc, les enfants qui sont dans nos écoles sont à plus de 99% des enfants d'immigrés. Immigration, premier niveau. Et donc, ce qui est fondamental, c'est d'apprendre la valeur de la France. C'est-à-dire que être français, pour pouvoir s'intégrer dans la société française, c'est pas simplement vous donner un bout de plastique avec marqué République française. Et ça, on ne le dira jamais assez. C'est des choses comme apprendre à parler français, les nuances de la langue, apprendre les coutumes, apprendre la culture, etc.
Sauf que ce débat, il est monopolisé par l'extrême droite.
Mais ce qui d'ailleurs, si vous voulez, est une espèce de prise d'otage. Je veux dire que nous, on n'est pas politique. Nous, on existe depuis 10 ans. Donc, si vous voulez, on est ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Je veux dire que nous, c'est le parti des enfants et de l'éducation. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on prend les enfants, qu'on les éduque, et à leur tour, ils éduquent les parents. et on éduque aussi les parents. C'est-à-dire que du coup, comme on a les enfants, on peut aussi éduquer les parents. Et nous, nous travaillons à deux niveaux. Et donc, pour répondre à la question que vous avez posée sur l'immigration, c'est pas simplement donner des permis de travail et dire aux gens, maintenant, vous vous débrouillez, vous vous intégrez. Je veux dire qu'il faut aussi passer, encore une fois, par un processus pédagogique et par un processus d'éducation. Vous voyez, on tourne toujours autour de l'éducation et Dieu sait que c'est important. Et ça, je suis pas convaincu que pour l'instant, ça soit très optimal en France.
On va entendre le prof, alors.
Non, juste un point sur le débat immigration. En fait, on est assez bon pour attirer de l'immigration peu qualifiée parce qu'on en a besoin. C'est complémentaire des jobs occupés par les, entre guillemets, les nationaux, les Français. Il y a aussi tout l'aspect immigration très qualifiée. Il y a une étude que j'invite les auditeurs à lire du Conseil d'analyse économique. Je crois que c'est d'Emmanuel Auriol qui montre très clairement que statistiquement, les pays qui sont en mesure d'attirer une immigration très qualifiée, ça a un impact très net sur la croissance économique.
Bah c'est du bon sens.
Donc, c'est du bon sens, mais c'est encore mieux de le montrer.
Bien sûr.
Une question peut-être un peu plus large, mais en drainant une certaine immigration, en tentant de drainer une immigration qualifiée, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de piquer des cerveaux à certains pays? L'Inde se posait la question récemment. L'Inde se félicite d'avoir des Indiens formés dans leur pays à la tête de grandes entreprises technologiques américaines, mais en même temps s'interroge si ces personnes-là ne seraient pas plus à leur place en Inde à la tête de grandes entreprises indienne, internationale dans la technologie.
Bah, excusez-moi, je vais être un petit peu impertinent, mais nous, est-ce qu'on nous a demandé la permission quand on a pris nos chercheurs, nos ingénieurs, etc. On nous a pas demandé, on nous a pas envoyé un Bristol en nous demandant est-ce que vous êtes d'accord qu'on vous prenne 25 000 ingénieurs pour les mettre à la Silicon Valley. Donc ça, c'est l'histoire du monde. C'est ce que disait madame. Et donc, si on ferme les frontières, si on fait la muraille de France, et puis la muraille d'Italie, etc., alors là, évidemment, plus personne partira, mais plus personne rentrera non plus, quoi. Hein.
Voilà. Bon.
Mais si on accepte de vivre dans un monde ouvert, bah, il faut réfléchir à l'attractivité. Donc, peut-être que les Indiens ou certains pays doivent aussi réfléchir à leur attractivité pour éviter qu'il y ait l'exode de leur propre cerveau.
Avant de passer aux deux sujets restants, un commentaire d'auditeur, je constate dans mon entreprise où le travail est un peu physique que les femmes, on en revient au premier débat, sont plus souvent absentes et ce qui s'en ressent dans leur rémunération, ce sont aussi les primes auxquelles elles pourraient accéder. Ça n'appelle pas de commentaire, c'était juste une remarque. On ne va pas refaire le premier débat.
Un peu de muscu pour les femmes, ça ira mieux.
On va parler de l'inflation dans la zone euro, ça ne vous aura pas échappé. On est à un niveau record, 10,7% au mois d'octobre. Quelles conséquences en matière de consommation? On commence à noter des changements dans l'attitude des consommateurs, Emmanuel Combe.
L'inflation, elle a nécessairement des effets très inégalitaires. En réalité, hein. Notamment parce que face à l'inflation, ceux qui peuvent demander des hausses de salaire, en réalité les qualifiés, hein, sont en mesure de les demander. Par contre, lorsque vous êtes, je laisse de côté sur le salaire minimum qui est automatiquement indexé et intégralement sur l'inflation, mais si vous êtes juste au-dessus du salaire minimum, vous avez un vrai effet de pouvoir d'achat. Il faut quand même se rappeler des choses très, très basiques. Hein. On parle de un peu plus de, si je ne dis pas de bêtises, 6% d'inflation en France, c'est ça, hein,
6,2. Oui, on a franchi la barre.
Ça, c'est une moyenne. Ce que voit le français, hein, l'inflation perçue, c'est son panier, hein, le panier du quotidien. Et là, on est plutôt sur des hausses de prix entre 15 et 20%.
Les produits alimentaires, ouais. Oui, on est proche de 12%.
Donc, vous avez vraiment un effet inégalitaire très, très fort sur tous ceux qui sont au-dessus du SMIC. Et donc, vous voyez apparaître des comportements assez classique, hein, qu'on a vu d'ailleurs il y a 15 ans. Moi, je me souviens en 2000, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2006-2007, il y avait eu un regain d'inflation et il y avait des comportements notamment de développement du hard discount. Je pense qu'on va avoir une montée en puissance typiquement des marques premier prix. On voit d'ailleurs la montée en puissance de marques comme Lidl, Aldi. Hein, donc premièrement, les canaux de distribution vont changer. Vous allez aussi avoir des Français qui vont de plus en plus utiliser la location. Pas seulement pour des raisons de sobriété au sens écologique, hein, tout simplement pour des raisons monétaires, parce que ça coûte moins cher de louer quelques semaines, quelques mois. Donc on voit déjà apparaître face à cette inflation, notamment pour ces populations qui sont ni au SMIC, ni très aisées, hein, une véritable contrainte budgétaire, hein, qui les amène à développer soit des canaux hard discount, soit des canaux location, etc.
Avec le développement de la seconde main aussi. Ça, ouais. C'est une conséquence, oui. Et c'est une bonne chose pour la planète.
Tout à fait. En fait, effectivement, il y a une contrainte qui est réelle, mais c'est un petit peu le même type de contrainte dont on a parlé tout à l'heure sur la pyramide des âges, c'est-à-dire qu'on est dans un changement qui intervient sur plusieurs niveaux en termes de population, et aussi tout l'imaginaire de réalisation qui allait avec cette population qui a travaillé dans les années 80-90 où l'argent était une valeur très importante. Aujourd'hui, ce changement à la fois générationnel et puis la crise climatique qui s'accélère et qui devient extrêmement criante aujourd'hui font que le contexte inflationniste, qui n'a jamais été une bonne nouvelle, et puis l'histoire nous le dit aussi, finalement, on peut l'avoir aussi. Alors, encore une fois, ça touche pas tout le monde de la même façon, mais ça pourrait être une opportunité sur la façon dont on procède. C'est-à-dire que, idéalement, il faudrait accompagner très fortement les populations dont Emmanuel vient de parler, c'est-à-dire celles qui ne sont pas aidées d'une façon indirecte avec l'augmentation du SMIC, mais qui se retrouvent dans des situations de tension et qui ont des consommations contraintes extrêmement fortes. Et il faudrait, pour le reste de la population et pour aussi un certain nombre d'activités économiques, profiter entre guillemets de cette situation pour accélérer des transitions qui sont nécessaires, notamment sur le fait de réutiliser, de créer des circuits à la fois sur des matières premières ou sur des objets qui n'ont pas vocation à finir à la poubelle tout de suite. Donc il y a un certain nombre de choses qui pourraient se mettre en place. La question, c'est est-ce qu'on va vraiment profiter encore une fois entre guillemets de cette situation de crise. Je crois que c'est un idéogramme chinois qui dit que crise et opportunité sont le même. Enfin, je crois que c'est le même idéogramme. Et donc, c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait d'une situation extrêmement contrainte. En tout cas, ce qui est certain, pour terminer sur une touche positive, c'est que les pistes sur un certain nombre de technologies, sur un certain nombre d'organisations sociales, parce qu'on parle toujours de technologies techniques, mais il y a aussi beaucoup de technologies d'organisations sociales, etc., qui peuvent être mises en place. Et beaucoup de choses ont été conceptualisées ces 15-20 dernières années, qui pourraient être mises en œuvre assez rapidement et qui pourraient pas mal changer la donne pour beaucoup de monde.
Moi, j'aimerais entendre Laurent Vronsky sur l'inflation énergétique. Vous êtes concerné directement avec une facture d'énergie qui explose pour votre entreprise. On nous parle aujourd'hui de délocalisation énergétique. Les entreprises vont voir ailleurs parce qu'elles peuvent produire avec une énergie plus abordable.
Oui, je fais partie de ceux qui pensent que ce que nous traversons aujourd'hui avec la crise énergétique est encore plus grave que la crise du Covid, pour une raison très simple, c'est que toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, utilisent de l'électricité. Puis après, vous avez les entreprises comme la nôtre qui, double peine, c'est l'électricité et le gaz. Et j'insiste dans les process de production, hein, pas juste l'éclairage et le chauffage. Donc, les délocalisations, je pense, vont intervenir dans un premier temps pour les entreprises qui avaient choisi peut-être la France comme terre d'accueil pour construire des usines. Donc là, c'est sûr qu'elles vont se poser la question. Et là, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en Asie et en Amérique du Nord, il n'y a pas de problème d'énergie. C'est-à-dire que c'est un problème très européen. Et donc, vous avez deux problèmes fondamentaux. Vous avez d'abord un problème de distorsion de concurrence, mais pas à l'intérieur de l'Europe. C'est-à-dire que moi, j'ai des concurrents qui sont américains et qui sont asiatiques. Eux, ils n'ont pas de problème d'énergie. Donc, quand nous avons un énergéticien que je ne citerai pas, mais j'ai amené mon contrat à l'antenne il y a quelques semaines... qui augmente les prix de x50... Moi, je ne peux pas augmenter mes prix de compresseur de x50. Alors si, je peux le faire, je suis mort le lendemain, quoi. Donc là, on crée des distorsions de concurrence qui sont phénoménales. Et même si vous êtes le meilleur gestionnaire du monde, il n'y a aucun moyen de gérer ça. Et après, vous avez, je pense, un coup de frein à la réindustrialisation du pays avec des étrangers qui vont clairement se dire bah, peut-être qu'il vaut mieux qu'on installe notre usine au Vietnam ou aux États-Unis et pas simplement pour des raisons de main-d'œuvre, pour des questions d'énergie.
Et les mesures du gouvernement pour aider les entreprises, il y avait des énormes trous dans la raquette, notamment les PME qui consommaient plus de 36 kilowatts, je crois.
Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, bon,
on va essayer de faire simple.
Oui, alors on va essayer de
faire simple. Mais est-ce que ces mesures vous semblent suffisantes? Alors, écoutez, sans entrer dans les calculs
déjà,
un peu techniques.
Déjà, je veux dire que le gouvernement se préoccupe de la situation. C'est une très bonne chose. Bon, et donc je pense qu'ils vont arriver à une solution. Simplement, je comprends que c'est pas un 2-3, que c'est pas une solution presse-bouton. On est dans un environnement européen. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont pas pour. Bref, c'est compliqué. En tout cas, je dirais pour l'instant, il y a des paroles d'amour. Bon, c'est très bien. Mais ce qui est important, c'est les actes d'amour. On est d'accord. Donc, c'est pour ça que le temps presse. Moi, j'espère qu'on a une fenêtre de tir qui va s'arrêter le 15 décembre. Parce qu'à partir du 15 décembre, les entreprises comme les miennes vont devoir signer un contrat de renouvellement d'énergie. Donc, il faut que les solutions soient en place avant. Pour l'instant.
Vous n'avez rien signé pour l'instant.
Pour l'instant, on n'a rien signé. C'est pas encore super clair comment ça va s'articuler au niveau des aides. Là, quand vous avez parlé des 36 kilowatts, alors, encore une fois, sans rentrer dans la technique, c'est-à-dire qu'il y a une classification qui a été faite et toutes les entreprises qui sont en dessous d'un abonnement de 36
kilowatts. Avec 10 salariés.
Voilà. Donc, les petites boîtes, je veux dire, elles vont être traitées comme les particuliers. Mais nous, on n'est pas du tout dans cette catégorie-là. On est dans les PME, 50 personnes, etc. Et pour l'instant, c'est pas très clair. Mais les choses, j'espère, vont arriver. Mais c'est fondamental. Sinon, non seulement on ne va pas réindustrialiser, mais on va surtout désindustrialiser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont aller au tapis. Hein.
Il nous reste moins de 10 minutes. J'aimerais qu'on passe au dernier sujet. On n'aura pas le temps de parler des banques centrales. Parler des GAFAM et de Twitter. D'abord, un commentaire sur Twitter. Il y a un nouveau patron, un propriétaire, en tout cas Elon Musk, avec un pari plutôt risqué. Il veut rendre payant la version premium, en tout cas certains comptes Twitter. Emmanuel Combes, vous êtes penché sur le cas des GAFAM.
Oui, j'étudie ce sujet depuis plusieurs années. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Twitter, comme les autres, hein, sont extrêmement dépendants de la publicité. Hein. Plus de 95% du chiffre d'affaires de Twitter.
Twitter n'a pas trouvé vraiment son modèle économique.
C'est de la pub. Et donc, le paradoxe, c'est quel autre type de revenu ? Autre type de revenu, c'est faire payer des abonnements. Mais il y a un gros problème qui surgit aussitôt, c'est que pourquoi vous inscrivez sur Twitter ? Parce que c'est gratuit. Et donc, si vous commencez à faire payer, si vous rendez le paiement obligatoire, une majorité de clients risque de fuir. Ça a été démontré, hein. Il y a eu des études statistiques d'économie expérimentale qui montrent que dès lors que vous faites payer sur ces réseaux sociaux, une large partie des personnes ne sont pas prêtes à payer.
Justement, donc, pour ceux qui sont sur Twitter, ils peuvent nous écrire @StephPedrazi, partager vos commentaires et vos réponses et aussi vos questions.
Et donc, c'est le tout paradoxe, c'est que dès lors que vous mettez du payant, par définition, vous risquez de perdre ce qu'on appelle vos économies de réseau. Hein. Tout le modèle, on le connaît, hein, c'est d'un côté une phase gratuite qui permet de faire payer l'autre face. L'autre face, ce sont les annonceurs. Et pour être moins dépendant des annonceurs, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire payer la première face. Alors comment la faire payer ? Si on rend l'abonnement obligatoire à tout le monde, comme je viens de le dire, il y a fort de chances que plus personne n'utilise Twitter. Et donc il a trouvé un modèle un peu hybride qui est de dire, je propose une valeur ajoutée moyennant le paiement, alors le fait qu'on puisse, je crois, corriger son tweet, qu'on sera certifié, etc.
La certification, elle existe déjà,
exact.
Elle est gratuite.
La question, c'est est-ce que vous êtes prêt à payer, je crois que c'est $8 par mois pour cela ? On peut en douter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'un côté Twitter qui va du côté, non plus de la face annonceur, mais de la face client. Puis de l'autre côté, vous avez Netflix qui fait exactement l'inverse. Hein. C'est un modèle 100% payant. Tu ne payes pas, tu ne peux pas regarder Netflix. Mais je m'aperçois qu'il y a des clients qui sont plus prêts à payer $9, $10, $11. Et je lance une version publicitaire, je crois, à $5,99. Intéressant de voir que ces GAFAM, chacun va finalement dans un sens différent. Et au fond, la question qu'il y a derrière, c'est est-ce que les GAFAM, ça existe ? Moi, ça fait plusieurs années que j'écris sur ce sujet. J'ai toujours considéré que c'était un mot qui ne voulait pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi ? Oui, c'est du numérique. Alors, le numérique, en effet, on sait, c'est une technologie qui a des caractéristiques très particulières. Pour n'en donner qu'une, c'est des coûts fixes. C'est un algorithme. Et une fois que vous avez rentabilisé votre coût fixe, plus vous avez de clients, plus vous avez d'abonnés, plus vous êtes rentable. Mais une fois qu'on a dit que tout ça, c'est du numérique, on s'aperçoit que c'est pas du tout les mêmes modèles. Je vais juste prendre un ou deux exemples pour essayer de vous en convaincre. Notamment si on regarde l'aspect barrière à l'entrée. Hein. C'était l'objet de ma chronique hier dans Les Échos. Est-ce qu'il est difficile de rentrer, par exemple, sur le marché de Netflix ? Pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que d'abord, Netflix, c'est mono-activité. Elle fait des séries. Rentrer sur le marché de Google, c'est pas un produit, c'est un écosystème. Et c'est très difficile une fois que vous êtes rentré. Alors vous avez le choix de rentrer dans l'écosystème Google ou l'écosystème Apple. Mais une fois que vous êtes dans l'écosystème Apple, j'en ai encore fait l'expérience hier avec des problèmes de compatibilité, c'est pas si évident que ça d'en sortir. Donc Netflix, c'est moins difficile de rentrer sur un marché qui est celui de la SVOD que lorsque vous êtes sur un écosystème. Secondement, vous avez également une différence énorme, c'est que Netflix, elle a des concurrents qui sont sur d'autres marchés, qui s'appellent Disney, qui s'appellent HBO, qui un jour se sont dit « Mais moi aussi, je vais créer mes tuyaux, j'ai déjà les contenus, j'ai le pétrole, il me manque les tuyaux. »
Et donc, s'appelle Amazon, il y a de plus en plus de monde.
Et on voit aujourd'hui que Netflix est concurrencé très durement sur son marché. Le switching cost, c'est-à-dire le coût de se désabonner, vous appuyez sur un bouton, vous mettez stop, vous ne payez plus votre abonnement et vous changez d'opérateur. Il y a d'autres marchés où vous ne pouvez pas changer comme cela. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la notion de GAFAM, elle me gêne parce qu'en fait, elle agrège dans un tout des choses qui sont complètement, complètement différentes. Dernier exemple, la différenciation des produits. Pourquoi TikTok finalement a marché ? Parce que TikTok, c'est pas exactement la même chose qu'Instagram, qui est pas la même chose exactement que Facebook. Uber, vous voulez vous lancer sur le marché de Uber ? Uber, qu'est-ce qu'elle propose ? C'est d'aller d'un point A à un point B avec un chauffeur.
Et une application, c'est quand même le nerf de la guerre.
Donc il y a peu de différenciation. Si vous lancez un nouveau business model, vous allez lancer un business model avec des voitures, des chauffeurs qui vont d'un point A à un point B. Les leviers de différenciation sont très faibles. Par contre, vous avez d'autres marchés, typiquement les réseaux sociaux. Les jeunes n'ont pas forcément envie d'être sur la même application que leurs parents, en l'espèce Facebook. Et donc, vous voyez, selon les marchés, les barrières à l'entrée ne sont pas les mêmes, la hauteur n'est pas les mêmes, la nature des barrières à l'entrée n'est pas la même. Et donc, à la fin des fins, la rentabilité n'est pas la même. Et ça n'est donc pas complètement étonnant qu'on ait Apple, si j'ose dire, Kiri, qui a annoncé des résultats assez extraordinaires, hein, puisque c'est un écosystème. Et de l'autre côté, hein, vous l'avez vu, des résultats plutôt décevants du côté, je perds la mémoire, du côté de Meta.
Oui.
Hein, parce qu'on voit que Meta est attaqué notamment par TikTok chez les jeunes.
Donc, vous attention, dites décevant, c'est un euphémisme. Hein.
Voilà,
l'action s'est effondrée la semaine dernière.
Ce terme de GAFAM, ça fait 3-4 ans, hein, que je le dis, il me gêne toujours un peu parce que il laisse à penser que tout ça, c'est la même chose. C'est plus compliqué que ça.
Agnès Michel.
Oui, c'est vrai, c'est surprenant parce qu'on a des produits qui sont différents. On a du hardware, du software, de la publicité, comme vous le disiez. Et ce que je trouve intéressant, c'est de faire le parallèle avec la presse pour toutes les notions de gratuité. C'est-à-dire que ça peut, aujourd'hui, les questions qui sont posées peut remettre sur la table ce débat qu'il y a eu par rapport à la presse qu'elle a connue. Combien j'accepte de payer pour un contenu. Est-ce que Twitter offre un contenu? Twitter offre une plateforme d'échange de contenu. Est-ce que ça a un prix? Ces choses-là sont des choses où, en fait, finalement, c'est la logorée de tout un chacun. J'en fais partie, hein, je suis assez... Et quel prix je suis prêt à payer pour finalement avoir cette logorée et recevoir celle des autres. Ça peut être intéressant plus philosophiquement de réfléchir à l'utilité de ces outils-là et du coup leur prix. Moi, je pense que c'est un prisme qui peut, voilà, sur la presse, j'espère qu'on a compris qu'il y avait un intérêt à avoir une pluralité sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas d'avis définitif, mais je pense que se poser la question est intéressant.
Certains disaient cette semaine, il faut vraiment être maso pour payer 8 euros par mois et se faire insulter.
Alors, c'est vrai que les rares fois où j'ai parlé nucléaire, j'ai compris ce que c'était que les trolls, en dehors de la science, enfin, en dehors de l'heroic fantasy, et j'ai pas aimé. Oui, on est d'accord.
Emmanuel.
Un point super important aussi, c'est qu'on s'aperçoit que les GAFAM sont parfois concurrencés par des GAFAM. Vous regardez le marché de la publicité digitale, c'était un duopole Facebook, Google, et vous voyez quoi ? Amazon, qui est en train de monter en puissance. Amazon, c'est un moteur de recherche, en réalité, en vue d'un achat. Et vous voyez aussi Apple se développer. Donc c'est intéressant. Les GAFAM eux-mêmes se font concurrence entre eux.
On a quand même l'impression que ça se normalise du côté des GAFAM, même si le groupe n'est pas homogène. On parle de licenciement, de suppression d'emplois, d'économie. Ça doit vous rassurer en tant que chef d'entreprise dans un secteur plus traditionnel.
Rassurer, c'est-à-dire
C'est-à-dire qu'il n'y en avait que pour les entreprises technologiques américaines qui fonctionnaient dans un monde parallèle avec des chiffres absolument délirants. Aujourd'hui, on a un petit peu l'impression que c'est un wake-up call, comme disent les Américains.
Écoutez, moi, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas envieux. Je pense juste que depuis le quantitative easing, on a vu des choses complètement anormales avec des taux d'intérêt négatifs. On a des gens qui font des levées de fonds de 4 millions d'euros et considèrent en clair que c'est que dalle. On claque des doigts, etc. Et je pense que les cycles économiques sont ainsi faits qu'ils vous ramènent à la réalité et qu'une entreprise qui ne gagne pas d'argent, eh bien, elle n'a pas d'avenir. Simplement, la question, puisqu'il reste très peu de temps, je veux dire que je ne crois pas au mot gratuité, ça n'existe pas. Je crois aux donations, mais là c'est pas pareil, mais je crois pas à la gratuité. Vous êtes toujours attrapé par la patrouille. Donc quand vous êtes sur un abonnement dit gratuit, non, ce que vous payez pas monnaie sonnante et trébuchante, vous donnez toutes vos informations, et ces informations servent à quelqu'un qui va les vendre pour pouvoir diriger de la pub. Je pense simplement que Monsieur Musk, qui est à la tête d'une entreprise et pas d'un institut de bienfaisance, est en train de réfléchir comme tous les chefs d'entreprise.
On va en rester là. Un commentaire, tiens... C'est pas un troll, mais c'est pas très gentil. Pour Agnès Michel, c'est le festival du politiquement correct. Sur l'immigration, il serait préférable de dissocier les problématiques entre la régularisation des sans-papiers.
S'ils préfèrent la haine qu'il y aille, moi je reste avec le politiquement correct, ça me pose pas de problème.
Merci beaucoup Agnès Michel, membre du comité éditorial de Terra Nova. Merci également à Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor. On va le rappeler, membre du comité directeur du réseau d'école Espérance Banlieue, on en a parlé. Et Emmanuel Combes, merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous accueillir, professeur à la Schema Business School.